the 45th President of the United States of America, Donald J. Trump.
Un jour dans le monde.
And God bless America.
Sur France Inter.
Et Trump à la Maison Blanche, c'est notre feuilleton journalistique du lundi en direct de Washington. Bonsoir Frédéric Carbone.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va mettre entre parenthèses cette semaine les suites du dossier russe, Frédéric, qui nourrit encore la vie politique chez vous. Pour se concentrer ce soir sur la relation entre Trump et ses électeurs, il faisait bloc ses électeurs, mais il apparaît là maintenant quelques premières fissures.
Écoutez, c'est en tout cas ce qu'enregistrent les sondages, une cote de popularité désormais en dessous de 40% de manière générale. Le socle reste solide, mais oui, il y a bien des interrogations ici ou là, et le visage du doute, c'est celui d'un père de famille qui avait suivi le candidat Trump pendant toute la campagne. Il avait assisté à 45 meetings. C'est un homme qui a perdu son fils à la suite d'une overdose et qui croyait en la promesse de Donald Trump de prendre soin de cette Amérique blanche ravagée par l'épidémie d'opioïdes et de drogue. Craig Moss a donc perdu la foi en Trump parce que son champion a soutenu une réforme de la santé, finalement pas votée, on le sait, mais qui supprimait toute aide à cette population. Depuis, Craig Moss fait le tour des télévisions pour raconter son désarroi.
Je pense qu'il ne disait pas la vérité quand il parlait. Il voulait juste qu'on vote pour lui. Il ne fait pas ce qu'il avait promis et je me sens blessé. Vous savez, il faut une vie pour gagner la confiance. Il faut une minute pour la perdre, donc il faudra beaucoup pour la regagner.
On est bien sûr dans un cas très personnel, mais la réalité, c'est bien que les coupes budgétaires voulues par Donald Trump et la réforme de la santé toujours envisagée heurteraient une partie de son électorat. Le président américain le sait, et au milieu de toutes les turbulences de son début de mandat, il prend soin de mettre soigneusement en tête sa proximité avec son peuple. Voilà donc les mineurs de charbon, figure emblématique de la campagne, à l'honneur dans l'enceinte même de l'Agence pour l'environnement lors de la signature des décrets effaçant le plan anti-réchauffement climatique de Barack Obama. Écoutez ce que disait Donald Trump.
Je veux rendre hommage aux gens réellement fantastiques qui sont là. Nos incroyables mineurs de charbon. Ils m'ont parlé des menaces sur leurs emplois et leur mode de vie. Ils m'ont parlé de tout ce qui était fait pour détruire leurs mines, leur communauté et leur façon de vivre. Et je leur ai fait cette promesse, nous allons remettre nos mineurs au travail.
Alors l'emploi, la promesse centrale du candidat Trump au cœur aussi d'un autre décret signé ces derniers jours, celui sur les traités commerciaux.
Et le moment politique de la semaine, Frédéric, ce sera le vote pour élire ou non un nouveau juge à la Cour suprême. Ça s'annonce difficile, hein.
On est en effet dans la semaine de vérité pour la nomination du juge Gorsuch à la Cour suprême, qui là serait clairement une victoire politique pour Donald Trump. On est dans la priorité des priorités pour la frange conservatrice de son électorat. Le parcours d'obstacles des auditions est terminé pour le candidat de la Maison-Blanche. Et ce juge Gorsuch a pris soin de ne pas apparaître idéologiquement marqué, ne donnant pas son avis notamment sur les questions sensibles comme l'avortement. En fait, il se présente comme un juge impartial.
Il n'y a pas de juge républicain ou de juge démocrate, nous avons simplement des juges. Je prends le processus judiciaire très au sérieux, j'avance pas à pas en restant tout le temps l'esprit ouvert et avec la plus grande humanité possible. Tout le reste, je le laisse à la maison et je prends ma décision basée sur des faits.
Voilà pour la profession de foi juridique et pendant les longues auditions, le juge Gorsuch est apparu comme compétent, politiquement incontestablement habile, mais cela ne garantit pas une confirmation aisée. La commission judiciaire du Sénat vote ce soir, l'ensemble du Sénat votera normalement vendredi, théoriquement. Il faut une majorité qualifiée, donc pas simplement, pas uniquement les républicains, mais à écouter Chuck Schumer, le patron des démocrates au Sénat, ça n'est pas acquis.
Il devra mériter les 60 voix pour sa confirmation. Moi, je voterai non et j'encourage mes collègues à faire pareil.
Alors qu'il est 3 sénateurs démocrates seulement sont prêts à voter pour le juge Gorsuch, les républicains dénoncent une obstruction injustifiée et le patron républicain du Sénat est même prêt à changer la règle pour qu'un vote à la majorité simple suffise. Le dialogue bipartisan, Nicolas, était déjà moribond, mais cette nomination à la Cour suprême risque de signer son arrêt de mort.
Autre dossier brûlant, Frédéric, car le sujet est crucial. On va parler de baseball et de politique avec un accroc sévère au protocole présidentiel.
C'est vrai, le lancer de la première balle de la saison au stade de baseball, c'est un rituel depuis le président Taft en 1910. Et vous avez raison, Nicolas, c'est sérieux, c'est tellement crucial que cela nécessite une vraie préparation.
I practiced for a week before then.
Voilà, vous avez là Bill Clinton qui raconte qu'il s'était entraîné pendant 3 jours, une semaine même, pour lancer correctement. Barack Obama, lui, était venu au stade avec le maillot de son équipe fétiche, les White Sox de Chicago, mais Donald Trump a répondu négativement à l'invitation des Nationals de Washington, le club de la capitale. Il ne sera donc pas là dans 10 minutes exactement pour lancer la saison du passe-temps national des Américains. Et pourtant, là comme ailleurs, c'est le meilleur. Petite pépite sonore, interview qui date de 2014, accordée à un de ses biographes.
J'étais le meilleur joueur de baseball de New York quand j'étais jeune. Mon père était dans l'immobilier, moi ça ne m'intéressait pas. J'aurais voulu être sur le terrain, être dans le sport. Mais à l'époque, on ne gagnait pas beaucoup d'argent dans le baseball. Tout le monde voulait que je joue au baseball, mais j'étais bon ailleurs, dans la lutte ou dans le football. En fait, j'étais le meilleur en sport.
Éternel Donald Trump, pour justifier son absence, il met en avant un agenda trop chargé. Aujourd'hui, peut-être veut-il aussi éviter le risque de siffler dans une ville où il a réalisé moins de 10% des voix à la présidentielle.
Et puis le journal des sports continue avec vous, Frédéric. Donald Trump ne va pas jouer au golf avec son homologue chinois. Mais que se passe-t-il ?
Je vous sens tout déçu. Mais vraiment, c'est vrai, en fin de semaine à Mar-a-Lago, en Floride, où Donald Trump recevra son homologue chinois Xi Jinping, la collection de photos sur les greens entamées avec le japonais Abe aurait pu s'allonger, sauf que, dans le cadre de la lutte contre la corruption, ce même président nous apprend, le New York Times, président chinois, a interdit la pratique du golf aux dirigeants chinois. Il va donc falloir trouver une autre activité, peut-être une bonne soirée de télé devant Fox News.
Frédéric Carbone en direct de Washington, merci.